Eh bien, d'abord, merci d'être là, merci d'être venu, parce qu'au moins ça nous rassure, nous ne sommes pas les seuls à nous intéresser au pulp, nous ne sommes pas les seuls à nous intéresser à leur histoire et à leur développement. Pour commencer, j'aimerais faire une petite mise au point avant d'aborder le cadre de la table ronde proprement dite, en rappelant un petit peu ce qu'étaient les pulps. Au départ, si on devait les définir, on les définirait d'abord par leur papier qui ne coûtait pas cher, qui était de mauvaise qualité, réalisé avec la pulpe de bois de mauvaise qualité, d'où le nom pulp, mais je crois que tout le monde le sait maintenant. Mais la deuxième grande caractéristique, c'était les auteurs, des auteurs pas chers, des auteurs très nombreux, par milliers, des auteurs pas chers, mais qui vont être confrontés à une concurrence assez féroce, et cette émulation va petit à petit amener certains d'entre eux à essayer d'être meilleurs que les autres, et va faire émerger certains genres littéraires, émerger une certaine qualité d'écriture et amener un nouveau type de narration peut-être aussi en même temps. Historiquement, les gens qui s'autorisent à penser dans les milieux autorisés estiment que les pulps sont nés en 1896, quand le magazine Argosy, qui au départ était un magazine plutôt d'information, a décidé de changer de formule, de devenir beaucoup plus économique et moins cher, et de proposer exclusivement de la fiction. Argosy publie ce premier numéro en 1896 qui comptait à peu près 200 pages, mais aucune illustration, ni intérieure ni en couverture. Argosy va accueillir des grands noms dans ses pages, notamment Edgar Rice Burroughs, qui va faire passer des nouvelles de Tarzan et aussi une partie de sa saga martienne avec John Carter. Et Argosy va atteindre un jour un tirage de près de 500 000 exemplaires, ce qui atteste du succès déjà de ce type de formule. Et bien évidemment, il va inspirer d'autres éditeurs et d'autres auteurs pour se tourner vers ce nouveau type de littérature qu'on considère aujourd'hui avec un petit peu de hauteur en disant que c'était peut-être une littérature jetable puisqu'elle était pas chère, faite par des gens qui étaient peu payés sur du papier de mauvaise qualité. Mais en fait, on se rend compte aussi que la pulp fiction, la fiction pulp, reste très présente aujourd'hui dans la culture du XXIe siècle et nous essayerons d'évoquer cela aussi avec nos invités que je vais me permettre de vous présenter maintenant pour que nous rentrions dans le vif du sujet. Je vais commencer par Marie Barbier. Marie, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes éditrice et vous êtes là notamment pour témoigner. Ouais, d'abord, éditrice, ce que je voulais dire, c'est que vous êtes une éditrice passionnée, pas particulièrement spécialisée dans la littérature d'imaginaire et surtout pas dans le pulp. Mais vous êtes là pour témoigner d'un auteur que vous avez publié, que vous publiez actuellement, Francis Steven, et on en parlera tout à l'heure parce qu'il y a des choses à raconter. On est bien d'accord ? À côté, nous avons Nelly Chadour. Alors, Nelly Chadour, je me permets de citer le début de votre biographie sur le site Babelio.
Ça attend que je la change, d'ailleurs.
Ouais, parce que là, c'est le début de cette biographie, c'est « Écrivaine par passion ». Alcoolique par vocation, c'est là que je me suis rendu compte que nous avions un point commun. Je n'ai pas écrit de roman encore.
J'ai arrêté
mais...
le deuxième. Mais...
Très bien. Alors, Nelly, vous êtes un petit peu la représentante de la nouvelle génération qui s'intéresse au pulp. Vous êtes une autrice. Vous avez participé à une initiative qui s'appelle la Ligue des écrivaines extraordinaires. Et dans la note biographique qu'on m'avait transmise pour préparer cette table ronde, on m'avait dit que vous écriviez des pulps énervés. On verra tout à l'heure si c'est vrai ou pas. D'accord, je ne veux pas vous mettre mal à l'aise. Enfin, tout au bout du deuxième canapé, il y a Alex Nikolaevich, qu'ici, à Verdun, on ne présente plus. Alex est un scénariste de bande dessinée, un traducteur de bande dessinée, c'est un auteur aussi, c'est quelqu'un qui est passionné par Lovecraft et forcément aussi quelque part par les pulps, non ?
Oui, ben c'est par Lovecraft et puis il y a tout un entourage, mais on reviendra dessus, de gens autour de Lovecraft qui gravitent autour, mais aussi des grands auteurs de science-fiction. Et comme je suis passionné de comics aussi, on parlera de l'interface qui s'est faite entre les pulps et les comics. On en a déjà parlé même il y a 2 ans ici même.
Mais ça sera utile parce que là, je crois qu'on peut vraiment établir un lien entre les pulps et les comics.
Il y a des ponts, oui.
Et plus près de moi, voici Gilles Menegaldo, qui est professeur émérite de littérature et cinéma à l'université de Poitiers. Un titre comme ça, c'est impressionnant. Vous êtes aussi président d'honneur de la CERCIA, Société d'études et de recherche sur le cinéma anglophone, que je cite parce que vous avez un grand intérêt pour le cinéma et notamment pour le cinéma fantastique. Vous êtes également auteur d'ouvrages sur Dracula, Frankenstein et Lovecraft, dont un qui devrait paraître en pas trop longtemps et qui s'intitule, il ne sera donc pas présenté ici, qui s'intitule Lovecraft au prisme du XXIe siècle. C'est à vous que je vais poser la première question. Gilles Menegaldo, comment est-ce que les pulps sont apparus ? Rien ne se crée de rien. Et comment est-ce qu'ils se sont imposés au niveau de la culture américaine de la première moitié du XXe siècle ?
Culture américaine, bon, bonjour d'abord à tous. Merci d'être là. Bon, c'est un peu difficile. Disons qu'il y a déjà un antécédent des pulps, par exemple en Angleterre, mais aussi aux États-Unis, ce qu'on appelle les dime novels, hein, les romans à quatre sous. Pour donner juste un exemple, Robert Louis Stevenson a publié Dr. Jekyll et Mr. Hyde dans un de ses textes, pour des raisons financières en particulier. Il y a aussi, effectivement, comme vous l'avez dit, un certain nombre de magazines en Europe déjà, en Angleterre en particulier, qui publient des fictions, mais souvent des fictions qui sont accompagnées par d'autres types d'articles. Ce n'est pas uniquement de la fiction qui après ça va se spécialiser. Donc, il faut se souvenir de ça. Peut-être dire aussi que les pulps, ce n'est pas seulement la science-fiction, l'horreur ou le fantastique, c'est également le western, c'est également les romans d'aventure, les romans sentimentaux, et c'est aussi les polars, j'allais dire. Donc, et l'un des plus connus dans ce domaine, c'est la revue Black Mask, Masque Noir, donc qui va publier les textes de Dashiell Hammett, de Raymond Chandler et des autres. Donc, tous ces auteurs qui sont ensuite devenus, entre guillemets, canoniques, ont d'abord été publiés dans les pulps. Alors, il y a aussi un contexte dont il faut évoquer, c'est le contexte de l'après-Première Guerre mondiale et des traumatismes qu'elle a engendrés. La question de la monstruosité à tous les niveaux, de la violence monstrueuse, de toutes les violences exercées sur l'être humain par d'autres êtres humains. La technologie aussi, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que la Première Guerre mondiale, c'est l'arrivée des gaz. Donc, on va retrouver d'ailleurs dans certains films de super-héros un peu plus tard, hein, on en parlera sans doute, la technologie en général, l'aviation, etc. Donc, tous ces éléments de technologie, entre guillemets, technologie soit au service de la guerre, soit au service de l'avancée, disons, de la pensée, vont se retrouver dans les pulps. Le deuxième contexte qui, je pense, est très, très important aussi, c'est la crise économique aux États-Unis, la crise de 1929. Il va durer plusieurs années. Hein. Ce n'est pas simplement la crise de 1929 de quelques mois, ça dure plusieurs années. Ça a un impact considérable, en particulier sur les classes populaires. Et par exemple, le cinéma, qui était un divertissement populaire, et bon, ça sera un autre débat, en tout cas, c'est un divertissement de masse, hein, d'où aussi le fait que la censure s'exerce plus, parce que les masses, c'est toujours plus difficile à gérer, donc il faut bien un code de censure pour ça. On ne peut plus trop aller au cinéma, il y a aussi cette crise à ce niveau-là, des studios, et du coup, il faut pouvoir avoir un recours à une littérature d'évasion, entre guillemets, où le citoyen américain moyen, celui qui vient des classes, disons, moyennes ou inférieures, va trouver une sorte d'exutoire poétique, etc., et où il va se trouver représenté par des héros, il va pouvoir s'identifier à des héros qui sont forts, qui sont puissants, qui peuvent lutter contre des monstres, qui peuvent lutter contre des savants fous, qui peuvent lutter contre des criminels, etc. etc. Donc, il y a ce double contexte du traumatisme de la guerre et de la crise économique. Je pourrais rajouter
des choses, mais voilà. Non, je crois que c'est l'essentiel. Merci beaucoup.
Mais surtout, la diversité générique des pulps, hein, et puis aussi les hybridités entre les genres, évidemment, des polars, enfin, comment dire, des magazines d'horreur qui sont aussi en même temps des enquêtes policières, on va peut-être en reparler.
Mais, donc, il y a vraiment une évolution aussi, d'après ce que j'ai compris. Voilà. On a commencé avec des sujets relativement classiques, les histoires de détectives, les aventures sportives, le western et les romances. Et ensuite, on va voir se dégager des éléments comme la fantasy, la création de certains genres comme le Sword and Sorcery avec Howard et des choses comme ça.
Je voudrais juste rajouter, si vous permettez, quelque chose par rapport aux sources toujours, mais cette fois les sources littéraires, puisqu'on va reparler après du cinéma. Hugo Gernsback, que vous connaissez bien sûr, hein, qui a créé le terme de scientifiction, et on parle maintenant de scientifilm, roman, pardon, scientifiction. Lui, ses modèles, c'était en gros Jules Verne, Edgar Poe et H.G. Wells. Et donc, cette nouvelle science-fiction, entre guillemets, qui se veut pédagogique aussi, il y a une dimension pédagogique très importante. On va les retrouver, effectivement, ces auteurs. Alors, évidemment, le dernier point, c'est une pépinière d'auteurs incroyables dont on va reparler maintenant.
Mais ce que je voudrais aussi signaler, c'est qu'apparemment, en discutant, en préparant cette table ronde avec vous, Nelly Shadow avait fait remarquer que de ce côté de l'Atlantique, à peu près la même époque où les pulps apparaissent, on a quand même une littérature d'évasion qui commence à prendre le pas, et notamment, vous m'aviez évoqué Nelly Gaston Leroux. C'est un auteur qui vous avait...
Gustave Leroux.
Gustave Leroux, pardon.
Qui, même 10 ans avant Edgar Allan Poe, avait écrit un roman qui se passe sur la planète Mars, qui s'appelle Prisonnier de la planète Mars, avec, c'est l'histoire de le héros qui s'appelle Robert Darvel, et qui, grâce à l'intervention de 1000 fakirs par leur force mentale, l'envoient sur Mars. Et là, ils rencontrent les diverses créatures qui peuplent cette planète et ils vivent toutes sortes d'aventures très peu.
Et c'était à quel moment alors que
ce roman a été écrit en 1908 ou 1909, 1909.
D'accord. C'est concomitant un petit peu avec Alain et Souvestre, Fantomas. Donc, il y avait une littérature d'évasion qui existait de ce côté-ci. Et puis, un peu plus tard, il y a Jean Rey qui va faire Léa Redixon. Rien que pour dire qu'il y a quand même un mouvement, même en Europe, qui se tourne vers la littérature d'évasion. Mais, et c'est aussi un des objectifs de cette table ronde, nous essaierons tout à l'heure de noter la spécificité des pulps dans ce domaine. Maintenant, je me tourne vers Marie Barbier. Marie Barbier, je parlais tout à l'heure d'un auteur que vous publiez. Vous êtes la première à publier en France.
Tout à fait, elle était inédite en France, donc Gertrude Barros-Bennett.
Qui se faisait, qui utilisait un nom de plume, Francis Steven.
Masculin, Francis Steven. Donc c'est par elle que je suis rentrée, moi, dans le pulp. C'est un traducteur qui m'a remis, en fait, on l'a appelé le coffret des abîmes, mais ça s'appelait Glend. Et ce qui m'a plu, c'est cette hybridité dont tu parlais. Je pense que c'est un moment en 1919 où les codes ne sont pas arrêtés, en fait. Et c'était, pour vous le situer rapidement, en fait, l'histoire d'un marin qui arrive à prendre une roche volcanique sur une espèce d'île immergée qu'il ramène, en fait, sur la côte est et qui s'avère être un coffret assez mystérieux et maléfique qui porte malheur donc, à tous ceux qui l'entourent et qui va faire ressurgir le mythe de l'Atlantide, de Poséidon, avec des héros haut en couleur, plutôt sportif et bien américain, et qui tiennent tête à ce dieu assez écrasant, mais au final, les choses se font. Une imagination assez débridée et en même temps, une narration extrêmement maîtrisée.
Mais qui est Gertrude Barros-Bennett?
Alors, donc c'est sans doute la pionnière. Alors, je ne suis pas historienne, donc je vais être très prudente, mais pionnière américaine en fantasy et en science-fiction. Si je décris rapidement son parcours, parce qu'en fait, il sert de parangon aux autres écrivaine de pulp par la suite. En fait, donc, elle est née en 1883. Elle publie d'emblée un premier texte pour Argosy, dont vous avez dit qu'il était le pulp principal. Donc, c'est pas mal à 17 ans d'avoir son premier texte publié dans un pulp de cette envergure, en fait. Et puis, en fait, on pense qu'elle est venue à l'écriture, finalement, pour des raisons un petit peu alimentaires, puisqu'elle s'est retrouvée, elle s'est mariée à un monsieur Bennett qui a eu le mauvais goût de mourir dans une chasse au trésor en pleine tempête tropicale. Donc, on se croirait vraiment dans un de ses romans, je pense notamment à La Citadelle de la Peur, un an après le mariage. Donc, elle se retrouve avec une fille de 9 mois, c'est pas pareil, sur les bras, et sa mère invalide, puisque le père est mort pendant la Première Guerre mondiale, également sur les bras. Et donc, cette secrétaire de Philadelphie, parce qu'elle était née à Minneapolis, et elle a déménagé à Philadelphie, va en plus d'être secrétaire le jour, devenir écrivaine pulp la nuit. Donc, en fait, de 1917 à 1923, elle va faire 6 romans et 6 nouvelles, donc en fait une douzaine de titres, hein, c'est pas énorme, c'est une espèce de carrière météore. Et après, on n'a plus de nouvelles d'elle, elle disparaît en Californie, là encore, c'est assez romanesque. Mais elle n'écrit que pour les pulps, que pour Argosy, sauf la dernière nouvelle, Sunfire, qui paraît dans Wattpad.
Et pourquoi a-t-elle choisi un pseudo masculin?
Alors, ça serait à son initiative, donc je pense que c'était l'usage. Hein. Je pense qu'elle voulait démarquer le travail.
Il n'y avait pas de sexisme dans la sélection des auteurs?
Alors, je pense qu'il y avait un sexisme de toute façon ingéré, on va dire, hein, puisque elle a proposé un pseudonyme masculin. On ne lui a pas imposé, mais je pense que c'était un peu écrit que de toute façon... les femmes n'avaient pas forcément, ne pouvaient pas écrire comme ça sous leur nom. Elle voulait Jean Vel, qui a une consonance bien française. Et c'est le rédacteur du Story Weekly qui lui a dit « Non, non, toi, tu seras Francis Stevens ». Elle a dit « D'accord ». Mais effectivement, il y a certainement et un sexisme et des usages, en fait. Hein, parce qu'il était quand même courant, même pour les hommes, de prendre un pseudo. Donc, c'est difficile de voir...
Est-ce que vous avez des informations sur la façon dont elle a pu se faire publier? Est-ce qu'elle s'est adressée directement à Argosy? Est-ce qu'elle a envoyé ses manuscrits? Est-ce que vous en savez quelque chose?
Alors, je sais que pour le premier texte, elle l'a envoyé directement. Pour les suivants, non, j'ai l'impression que tout s'est passé avec une réelle facilité et qu'on l'a reconnu comme étant... le premier The Nightmare qu'elle a fait en 1917, l'éditeur qui l'a publié dans Argosy disait que c'était un talent extrêmement prometteur et que ça allait être addictif. Donc, d'emblée, elle a été perçue comme un talent qu'il fallait suivre.
Merci, donc, Marie Barbier. J'aimerais maintenant, pour prendre un autre exemple d'auteur de pulp qui nous intéresse personnellement, nous tous dans cette salle, évoquer le cas particulier d'Howard Phillips Lovecraft, qui, a priori, ne paraît pas l'auteur le plus facile à publier dans une publication destinée au grand public. Parce que même si on est amateur de Lovecraft, même si on l'aime éperdument, et je pense que parmi vous, il y en a certains qui partagent cette passion avec moi, il faut reconnaître que le style lovecraftien n'est pas forcément très commercial et que son, comment dire, le fait qu'il ait finalement trouvé un débouché dans une pulp pousse à s'interroger. Alex Nikolaevitch, est-ce que vous pouvez aborder ce sujet? Est-ce que vous pouvez apporter un début d'explication?
Alors, Lovecraft, quand il commence, il est dans ce qu'on appelle le journalisme amateur. Donc, c'est vraiment ce qu'on appellerait de nos jours les fanzines. C'est des trucs renéotés ou imprimés à tout petit tirage, avec des gens qui se connaissent dans tout le pays. Et de 1917 à peu près à 1923, il va être vraiment très impliqué dans ces milieux-là. Il va même prendre brièvement la tête d'une des associations. Mais on en parlait hier dans le documentaire, il travaille pour l'amour de l'art. Ça rapporte, ça lui coûte plus d'argent que ça ne lui en rapporte. Quand il imprime à 100 exemplaires ou 200 exemplaires une petite revue et qui est vendue quelques cents, ce n'est pas comme ça qu'il gagne sa vie. Il pose au gentleman. Dans le journalisme amateur, il publie aussi bien de la poésie. Et au départ, il se considère plus comme poète qu'autre chose. Il va publier des récits dans ses propres revues, dans les revues des copains, parce que, comme je disais, c'est une communauté. Il va publier quelques fictions. Et il arrête assez vite les fictions. C'est ses amis qui lui disent de poursuivre, qui vont le convaincre de s'y remettre en 1917 avec Dagon, qui publie dans le journal d'un de ses amis. Au début des années 20, il commence à avoir des soucis d'argent. Et là, certains de ses copains lui disent, mais il y a Werthels qui vient de... Werthels commence en 1923. Au mois de juillet... ses amis lui disent, mais envoie tes nouvelles fantastiques que tu as publiées par ailleurs, et puis il y avait aussi des inédits, envoie-les à Werthels. Et lui avait lu un numéro de Werthels, et il envoie une lettre. Alors, il envoie trois textes, dont Dagon, accompagné d'une lettre à Edwin Baird, qui était le rédacteur en chef, et il explique dans la lettre, bon, voilà, j'aime bien votre revue, j'en ai vu un numéro, c'est une écriture très commerciale, en tant que telle, c'est très bien fait pour ce que c'est. L'écriture commerciale, ça ne m'intéresse absolument pas. J'écris pour mon propre amusement. D'ailleurs, j'envoie trois textes. Vous lisez le premier, Dagon. Si celui-là ne vous plaît pas, ce n'est même pas la peine de lire les deux autres. C'est peut-être le plus accessible. Donc, il commence en se savonnant lui-même la planche, l'idée d'écrire pour de l'argent n'est pas un truc, c'est un peu déchoir pour lui. D'un autre côté, il n'a pas trop de choix, il faut bien manger aussi des fois. Alors, c'est quelqu'un qui mangeait très mal, mais quand même, il y a un moment où il faut manger un peu. Il va finir, la lettre va visiblement amuser Edwin Baird. Ses rapports avec Werthels vont être très compliqués pendant tout le reste de son existence. Mais Baird va commencer à le publier de façon très régulière, à publier aussi ses lettres.
On raconte, Alex, qu'il y a sa nouvelle « L'appel de Cthulhu », qui est aujourd'hui une nouvelle extrêmement importante dans le mythe de Cthulhu, a été refusée au départ par…
Deux fois.
Farnsworth.
Avec Farnsworth Wright, qui arrive aux manettes en 1925, il y a plusieurs contentieux. Alors, Wright est auteur aussi. Il a été l'assistant de Baird au départ. Baird est obligé de lâcher la rédaction en chef pour des raisons de santé. Finalement, c'est Farnsworth Wright qui prend la tête du magazine, alors qui était lui-même auteur, mais auteur assez médiocre. Par contre, qui comprend très bien les rouages du truc. Le problème entre Lovecraft et Wright, c'est qu'avant de proposer le poste à Wright, on l'a proposé à Lovecraft. Et que Lovecraft, qui est à New York, qui est coincé à New York à ce moment-là avec son mariage qui bat de l'aile et qui commence à tourner en rond, à aller très mal, on lui propose du boulot et il est très tenté. Simplement, il y a un problème, ça veut dire partir. Déjà, il est à New York et ça se passe mal, et là, ça veut dire partir à Chicago, donc s'éloigner encore un peu plus de sa femme pour être dans une ville qu'il ne connaît pas et qui l'inquiète, dont ce qu'il sait l'inquiète un petit peu. Donc, il y a un moment, il décline le truc. Donc, Wright, quand il arrive aux manettes, sait très bien qu'il a le poste parce que Lovecraft l'a refusé. Donc, ça pose déjà des... Wright, pour le coup, a hérité d'un magazine qui ne va pas bien. Werthels, ça n'a jamais été pour nous. C'est un magazine mythique. À l'époque, c'est un truc qui vivote, qui manque de faire faillite plusieurs fois, qui est arrêté même à des moments avant de redémarrer quelques mois après. Donc, le côté commercial, Wright a besoin de trucs très commerciaux. Donc, Wright va mettre en avant, par exemple, Robert Howard. Mais Lovecraft, l'appel de Cthulhu, il ne comprend pas l'appel de Cthulhu. La couleur tombée du ciel sera publiée ailleurs, d'ailleurs chez Gernsback, parce que c'est plus un texte de science-fiction, donc Wartels ne voit pas trop comment le vendre. Gernsback, qui va en profiter pour arnaquer Lovecraft et Clark Ashton Smith, parce que c'était un margoulin.
Juste une petite anecdote sur Hugo Gernsback, qui est je ne sais plus quelle était la publication dont il s'occupait, mais il avait la réputation d'être le plus radin des éditeurs de pulp, de payer un quart de cent le mot.
Vous imaginez, oui, alors tu vois, il payait un cent le mot.
Quand même, quatre fois plus, c'est déjà ça. Et on disait que pour être payé, il fallait le menacer de poursuites judiciaires pour des salaires de misère. Gilles Menegaldo, comment est-ce que vous voyez Lovecraft dans les pulp? Est-ce qu'il avait sa place et comment est-ce qu'il est arrivé là-dedans, à votre avis, de votre point de vue?
Bah, je crois que Alex a pratiquement tout dit, hein, là-dessus. J'aurais juste rajouté quelque chose par rapport au refus de Lovecraft. Effectivement, il n'avait pas envie d'aller à Chicago, malgré qu'on lui avait promis une avance de 10 mois de salaire. Alors que c'est quelqu'un qui gagnait sa vie, enfin, il gagnait sa vie en étant ce qu'on appelle un nègre littéraire, c'est-à-dire qu'il relisait, il réécrivait les textes de ses amis ou des gens qui lui demandaient. Un certain nombre de femmes écrivains, d'ailleurs, comme Zéalia Bishop, etc. Enfin, plusieurs. Et donc, voilà. Et ce qu'on peut dire peut-être de plus pour rajouter quelque chose, c'est que je pense que Lovecraft, fondamentalement, aurait bien aimé être publié ailleurs que dans Wirtek ou d'autres pulps, qu'il considérait ça comme de la littérature de très bon marché, effectivement. Et lui ne correspond pas du tout au style qu'on peut trouver dans les pulps, effectivement. Donc il y a vraiment un décalage. Après, bon, c'est compliqué parce que Howard aussi ou Clark Ashton Smith ne sont pas des auteurs non plus forcément très très simples. Hein, donc, mais en tout cas, dans la correspondance, comme il disait hier, il a écrit 80 000 lettres, dont il se plaint très souvent de sa relation avec François Wright en particulier. Effectivement.
Mais est-ce qu'il a eu vraiment un succès? Pardon, Alex.
Il y a un truc dans ses lettres, il dit qu'il regrette d'écrire pour un public de portefeuille.
Oui.
C'est le mot qu'il emploie. C'est
assez méprisant quand même.
Oui, de portefeuille, puis de voilà, ce qu'il appelle aussi the rumble, hein, le peuple, le populo, etc. Et puis, donc, par contre, ce qui est intéressant, c'est effectivement les textes de Lovecraft ont eu pas mal de succès. On le voit dans un des aspects du magazine Weird Tales, qui est quand même assez connu maintenant, qu'on appelle the Eyrie, c'est-à-dire le regard des lecteurs, les réactions des lecteurs par rapport au texte. Et là, il y a quand même beaucoup de lecteurs qui reconnaissent l'importance de Lovecraft comme auteur dans Weird Tales. Et Lovecraft qui lui-même, d'ailleurs, parfois publie des choses. Dans The Eyrie, cette colonne de courrier des lecteurs, si on peut dire, va prendre une importance grandissante dans Weird Tales jusqu'à un moment donné où elle va finir par disparaître aussi. Mais ça, disons que, en tout cas, la lecture de Lovecraft est manifestement fascine beaucoup de monde, y compris des jeunes auteurs qui vont aussi publier ensuite dans Weird Tales, comme Robert Bloch, par exemple, qui lui, par exemple, n'aime pas Conan. Donc il aime bien ce que fait Howard, il aime beaucoup Howard. Il va être très triste à la mort de Howard, il s'est suicidé. Mais par contre, il dit non, moi, je n'ai jamais aimé Conan. Et tout jusqu'au bout, il dira que Conan, ça l'ennuie, ce barbare. Enfin, tout ce qu'il dit, c'est un terme extrêmement péjoratif pour définir le héros de Howard.
Cette année, nous parlerons obligatoirement moins de Howard, qui était à l'honneur l'année dernière. Mais j'aimerais juste savoir si Lovecraft a eu du succès avec les pulps et a entretenu une bonne relation finalement jusqu'à la fin de sa vie.
Moi, je.
Ça a été compliqué. C'était un rapport. Alors, c'était compliqué parce que, par exemple, quand il prend un agent dont on reparlera, Julius Schwartz, qui va prendre les Montagnes hallucinées et le vendre à Astounding, Pulp, je crois que c'est Amazing ou Astounding. Astounding, qu'on a d'ailleurs dans les vitrines, les Montagnes hallucinées. Le rédacteur en chef prend le texte sans le lire en disant Lovecraft. On me file un Lovecraft, je l'achète et il paye Roby sur Ongle. Alors, s'il paye à publication, mais ça a été $360, ce qui, pour l'époque, était un des plus gros chèques que le Lovecraft ait jamais touché pour une nouvelle, qui va être d'ailleurs segmentée en quatre parties. retravaillé parce que trop long, c'est un court roman, Les Montagnes Hallucinées. Mais effectivement, dans le milieu, les gens savent qui c'est. Et le problème, c'est que des pulps de fantastique, il en apparaît plusieurs, et Lovecraft n'aura pas la démarche d'aller les contacter. Alors, il va faire quelques essais. Il va même accepter une commande, au début des années 20, il accepte la commande pour Herbert West, réanimateur. Et là, c'est l'écriture commerciale. C'est en quatre parties, avec un cliffhanger à la fin de l'épisode, avec un résumé de l'épisode précédent, au début d'épisode, et des rebondissements et des trucs comme ça. Et ça l'emmerde. Il dit, oui, ça paye bien. Et encore, il a fallu qu'il relance pour avoir les sous. Mais ça l'ennuie profondément. Et donc, il va le refaire une fois. Je ne sais plus quel était le texte. Il va faire un autre texte dans ce cadre-là, mais à un moment il arrête. Et quand des nouveaux magazines se montent, ses copains qui vont envoyer des textes, il n'a pas la démarche de le faire. Il fait bon, j'ai déjà Weird Tales. Quand Weird Tales refuse des trucs, et ben c'est souvent des voisins, des amis qui vont plutôt aller présenter des textes. Je ne crois pas que ce soit Lovecraft qui ait proposé lui-même La couleur tombée du ciel à Gernsback. C'est quelqu'un qui a fait le go-between en disant c'est quand même dommage que ce texte ne soit pas publié.
Ce qui est important, je crois aussi, de comprendre, si je l'ai bien compris moi-même, c'est que ces auteurs avaient besoin d'être publiés, qu'il y avait une concurrence, qu'il y avait besoin d'avoir un certain niveau de qualité quand même, et qu'ils étaient très mal payés, ils devaient produire. Est-ce que ça a été le cas de Lovecraft lui aussi? Est-ce qu'il s'est senti à un moment, comme Howard l'a été, parce que Howard a été quand même un forcené de la machine à écrire, est-ce qu'il s'est senti obligé de s'installer, de sortir de la copie à toute vitesse?
Comme il détestait ça, il savait qu'il aurait dû le faire, mais il ne l'a pas fait, jamais. Puis au début des années 30, il commence à douter. Justement, suite au Rothschild Wright, il doute, donc il essaye de nouvelles choses. C'est pour ça qu'il fait Les Montagnes, qu'il fait le Monstre sur le Seuil, où il va essayer d'écrire différemment, mais il est incapable de produire à la commande.
Gilles Ménégal.
Non, je voulais dire, vous parlez de machine à écrire, justement, Lovecraft le détestait, je crois qu'il ne savait pas taper, enfin, son texte, ses amis qui tapaient ses textes, lui, il envoyait des textes manuscrits, donc qui étaient refusés parce qu'ils étaient manuscrits. Et donc, ce sont des amis qui lui tapaient ses textes. Il avait une horreur de la machine à écrire, il avait une horreur de tout ce qui était commercial, il avait une espèce de hauteur, effectivement, côté caractère hautain, il se définissait, comme on le sait, tout le monde, hein, comme un gentleman, mais pas simplement du XXe siècle, hein, comme un gentleman du XVIIIe siècle. Et donc, c'est en matière de style, c'est maître à penser, ouais, maître à écrire, c'est Addison et Steele. Hein, c'est pour ça. Donc il signe sa signature est avec une S allongée qui est typique effectivement de l'orthographe du XVIIIe siècle.
Gilles Ménégaldo, vous m'offrez une transition vers le thème que j'aimerais qu'on aborde maintenant, c'est de définir, est-ce qu'il y avait un style? Quel est le style des pulps? Qu'est-ce qu'on aime dans les pulps? Je vais commencer par Nelly Shadow, qui est en train de s'endormir tout doucement dans son canapé là-bas.
Non, pas du tout.
Je plaisante. Pardon. Qu'est-ce qui vous plaît dans le pulp, vous, Nelly?
Le fait que l'auteur ou l'autrice débride son imagination au maximum, ne cherche pas forcément... cherche forcément à aller au-delà de ce qui a déjà été écrit, parce qu'il y a tellement d'auteurs justement qui se faisaient concurrence que c'était un peu la course à l'invention pas stylistique, malheureusement, parce que bon, comme il fallait vraiment essayer de la copie. Mais c'était vraiment la course en tout cas à l'aventure, que ce soit donc science-fiction, fantasy, etc. Moi, je vois surtout, il y avait cet état d'esprit qui a été conservé, qui est revenu dans les années 80 avec le cinéma américain, par exemple. Parce que je pense à Indiana Jones, qui est un des plus grands héritiers de la culture pop.
On l'évoquera tout à l'heure, oui. Donc, c'est l'imagination, c'est la possibilité de libérer toutes les idées et de laisser l'esprit inventer.
Oui, et voilà. Normalement, un peuple réussi, c'est un peuple où on ne s'ennuie pas du tout, quoi. Où on tourne les pages fébrilement, où justement, on s'évade.
Marie Barbier, vous, qu'est-ce que vous appréciez dans les pulps, même si ce n'est pas votre littérature de prédilection? Qu'est-ce que vous cherchez?
Cet aspect, déjà, tu disais, totalement débridé, en fait. Donc, il y a du roman d'énigmes, il y a du roman d'aventure, il y a énormément d'humour. L'humour est extrêmement, extrêmement agréable. C'est extrêmement visuel aussi. Alors, moi, je me suis projetée énormément de scènes, en fait, En lisant Frances Stevens, elle voulait être illustratrice. Je pense que ça aide, mais ça ne m'étonne pas qu'il y ait une jonction avec le cinéma. Elle est évidente et elle n'est pas dans les couvertures de Margaret Brundage. Hein. Elle est dans l'écriture. C'est l'ADN même, pour moi, de cette écriture. Donc, on ne s'ennuie pas. Et en même temps, il y a une maîtrise. Parce que c'est vrai qu'en relisant les romans, je me disais, ah, mais en fait, elle y avait pensé dès le premier chapitre. Alors, on peut imaginer qu'ils écrivent comme ça à la copie pour être payés. Mais en fait, il y a quand même une structure. Il faut que les choses soient courtes, pas trop d'effusion non plus. Il y a quand même une armature, je trouve, et une charpente assez vigoureuse.
Donc, ce n'est pas vraiment de la littérature jetable. C'est quelque chose qui se développe et qui commence à avoir vraiment de la texture.
Eh bien, on se laisse surprendre, mais oui, en fait. Au départ, on se dit, c'est de l'entertainment, c'est du voilà, on se fait plaisir, on s'évade et tout. Et en fait, c'est extrêmement vigoureux et structuré. Et c'est à la relecture qu'on découvre à quel point.
Merci Marie Barbier. Alex Nikolaevitch, vous, qu'est-ce que vous aimez dans les pulps ?
Le côté, le caractère complètement premier degré. Le pulp, à la base, c'est vraiment des choses extrêmement directes. C'est très américain, quelque part. C'est pour ça qu'effectivement, un Lovecraft, un Smith sont des gens un peu à part dans ce milieu-là. Parce que quand la force de Ward, par exemple, c'est le côté premier degré de ces histoires d'aventure. Surtout que Howard ne publiait pas que de la fantasy. Il publiait aussi dans des... À un moment, les pulps, à force d'être divers, se spécialisent. Et Howard écrit dans des pulps de boxe, où c'est des Two Fisted Tales ou des choses comme ça. Enfin, non, ça, c'était un comics, mais bon, des Fist Stories, ou je ne sais plus comment s'appelaient ces trucs, de bagarreurs sur les quais, enfin, des choses parfois assez répétitives, dans du western... Et on est vraiment dans ce côté de l'aventure pure, de l'invention, mais du truc extrêmement direct. Alors que les meilleurs textes de Ward ont une réflexion politique et philosophique derrière, mais qui est souvent discrète. Et c'est pour ça qu'un Clark Ashton Smith, qui lui est un poète esthète et un peu décadent, a une carrière pulp très courte. Alors lui est très cynique par rapport à ça. Il arrose un certain nombre de magazines avec des choses où il reste un poète. C'est très, très tourné, très surécrit. Mais si vous prenez dans Weird Tales, un Seabury Crime, où on est dans l'investigateur du paranormal, on est beaucoup plus dans la moyenne de ce que sont les pulps à l'époque. Ou dans le domaine des mercenaires de la machine à écrire de l'époque, Ronobard commence à faire du western, de l'aventure, du polar, de la SF, en publiant parfois jusqu'à 3-4 nouvelles par mois, des trucs d'ailleurs que ses disciples ne réimpriment pas, parce que ça sent aussi les conditions de production. Donc parfois, il y a des choses, quand Sadou avait ressorti les meilleurs récits de Weird Tales, d'Astonding, etc., même dans la compilation des meilleurs récits, il y a beaucoup de trucs qui nous semblent maintenant assez lisibles. Donc le pulp, j'aime beaucoup le pulp, mais il y a aussi un devoir d'inventaire. Hein, il y a des trucs qui n'ont pas passé du tout l'épreuve du temps. Mais si on dit, alors, hein, tu parlais tout à l'heure des autrices qui prennent un pseudo, C.L. Moore, enfin, la personne qui publiait C.L. Moore, qui commence d'ailleurs à échanger des lettres avec Henry Kuttner, et ils vont se marier ensuite, mais Kuttner, pendant 6 mois, ne sait pas du tout qu'il a affaire à une femme. Catherine Lucille Moore fait de l'aventure premier degré. Alors, elle est très pote avec Howard. C'est elle qui va d'ailleurs annoncer à Lovecraft la mort de Howard. Mais c'est Gyrelle de Joyry qui est un peu aussi une des de la Diane d'Aventin dans une nana sous l'Ancien Régime qui vit à la pointe de l'épée. Et surtout Northwest Smith qui est un héros de l'espace, une espèce d'aventurier de l'espace où c'est du western. Mais c'est quasiment Conan le barbare avec un pistolet thermique, le laser n'est pas encore inventé, un cuir de pilote et qui va sur Mars, sur Vénus, etc. On est dans le western est quelque part le cœur de l'ADN du pulp, même quand c'est du polar, même quand c'est de la fantasy. Les meilleurs récits de Howard sur Conan sont des westerns, au-delà de la rivière Noire.
Le genre western lui-même ne relève-t-il pas de la fantasy, parce que c'est quand même une réinvention de l'histoire récente des États-Unis à l'époque.
C'est pour ça que ça se marie très bien avec le reste, mais il y a énormément de pulp de western dans lesquels Howard va officier d'ailleurs.
Gilles Menegaldo, qu'est-ce que vous appréciez dans le pulp et qu'est-ce qui vous semble marquant ?
Je suis d'accord avec Alex. Déjà, la première chose, c'est qu'il faut choisir, parce qu'il y a quand même des textes qui sont finalement illisibles ou médiocres, etc. Donc, Ce qui est fascinant, c'est justement qu'on ait pu rassembler dans ces magazines des auteurs extrêmement médiocres et répétitifs et des auteurs qui sortent du lot, et effectivement, souvent, qui n'ont pas grand-chose à voir avec normalement le public qui lit ce genre de texte. Hein. Donc, pour ça qu'on s'aperçoit finalement que le public qu'on considère comme populaire est peut-être nettement plus varié. Ce serait intéressant de faire une analyse de réception. Et justement, le courrier des lecteurs montre qu'il y a des intellectuels, voire parfois des écrivains en herbe potentiels qui réalisent ce poste. Bon, l'autre aspect, je pense, c'est ce rapport avec la modernité, en particulier à la modernité technologique. Donc, il y a les deux choses. Il y a à la fois la tradition, et donc là, on revoit un peu ce que j'ai dit avec Bernsbach tout à l'heure. Il y a des histoires de loups-garous, des histoires de vampires, des histoires aussi qui se passent dans des lieux exotiques comme l'Afrique, par exemple. Hein. Un continent noir au sens où dit Conrad, c'est un continent inexploré, ou qui reste en partie inexploré à l'époque, l'Antarctique, mais aussi l'espace. Donc, évidemment, et la technologie spatiale.
Ce sont plutôt des genres qui se sont développés dans les années 30, c'est oui, pas aux origines.
C'est pas aux origines, non, tout à fait. Donc, petit à petit, ça se spécialise effectivement autour de la science-fiction. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment ce mélange de tradition, donc de nostalgie pour quelque chose qui est en train de disparaître, et en même temps, donc, cette volonté de modernité, d'où la présence fréquente aussi, on parlera peut-être de relations avec le cinéma tout à l'heure, mais dans les pulses même, il y a la présence de la technologie, et en particulier la technologie audiovisuelle, donc les enregistrements, tout ce qui est de l'ordre de l'enregistrement du son, mais également de la captation par les caméras, et dans certaines couvertures de pulses, on trouve des caméras, on trouve des projecteurs, etc.
Je voudrais qu'on évoque brièvement, parce qu'il n'est pas question d'en faire une étude approfondie, les techniques narratives qui sont propres au pulp, parce que bon, certains spécialistes parlent d'un golden age of storytelling, d'un âge d'or de la narration. Est-ce que vous avez perçu ça dans les pulps que vous avez lus? Tout à l'heure, quand vous disiez, Nelly, vous disiez que c'est un imaginaire complet. Est-ce que dans la narration elle-même, vous sentez qu'il y a quelque chose qui a encore une influence aujourd'hui? Brièvement. Non.
J'avoue ne pas avoir trop réfléchi à la question.
Merci
parce
beaucoup.
À l'époque, en tout cas, quand j'ai abordé le pulp, j'étais ado et je prenais ça très au premier degré aussi. Donc, moi, je voulais juste nourrir mon imaginaire, plus que mon style. Après, l'envie est arrivée avec la littérature française et les types de lettres. Mais par contre, pour la narration.
Non, merci. Je vous remercie d'avoir répondu. Marie Barbier, vous qui vous intéressez à une littérature plus classique en général. Est-ce que vous avez vu quelque chose dans les écrits de Gertrude Bauhaus?
Je pense que je vais répondre à côté parce que je n'ai pas vu de technique narrative. Mais par exemple, je vais parler d'un de ses romans, La citadelle de la peur. Ce que je trouve absolument étonnant, c'est que c'est une redite en fait, de l'île du docteur Moreau de H.G. Wells. Et comme tu disais, premier degré, totalement décomplexé. C'est-à-dire qu'on arrive à la fin avec un espèce de savant fou qui fait des manipulations génétiques sur des animaux. On n'est pas obligé de comprendre la référence. Elle a viré en fait, le côté éthique, politique, philosophique, mais en même temps, c'est clairement une amoureuse de cet auteur en fait. Et voilà, et elle a organisé son récit en deux temps. Dans un premier, c'est le monde perdu, comme on pourrait le voir avec Conan Doyle, ou dans une cité aztèque, voilà. Et dans un deuxième temps, on se retrouve transporté dans une atmosphère victorienne qui n'a strictement rien à voir avec cette espèce de savant fou sorti de H.G. Wells, mais le tout assez bien organisé puisque le héros fait la transition entre les deux diptyques, entre les deux atmosphères, et en fait ça dans une ambiance de rêve, de cauchemar et d'hallucination qui maintient le tout. Donc, je ne sais pas si on peut parler de technique narrative, mais en tout cas, ça se tient tout en étant complètement disparate, en fait.
Merci beaucoup, Marie. Alex, brièvement, est-ce qu'il y a quelque chose, une technique narrative particulière, propre au pulp, quelque chose qui le distingue de la littérature traditionnelle?
C'est un style extrêmement direct. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a le côté où on va à l'essentiel avec le pulp. Donc, c'est pour ça qu'un Clark Ashton Smith est complètement, ou un Lovecraft, sont vraiment des martiens dans ce contexte-là. Même un Howard qui travaille son style est quand même dans quelque chose d'extrêmement frontal. Et la plupart des auteurs vont, il faut du temps pour qu'émergent des gens comme Bradbury. Bradbury commence dans les pulps au milieu des années 30. C'est déjà une deuxième phase de l'histoire des pulps, parce que les auteurs de la première génération sont vraiment dans ce côté, on va à l'essentiel, on raconte de façon la plus compacte possible ce qu'on a à raconter, et on va utiliser, dès que c'est par épisode, un exemple très connu qui a commencé là-dedans, tu l'as évoqué un petit peu, c'est Brooks, qui à partir de 1912, la même année, alors c'est pas dans Argosy à l'époque, c'est un magazine, c'est All Story qui a fusionné avec Argosy quelques années plus tard, commence à la fois John Carter et Tarzan. Et donc là, on est dans quelque chose de très, par épisode et d'extrêmement direct. L'écriture de Brooks, il n'y a pas de gras, quoi.
Non, je rebondis juste parce que extrêmement direct, mais c'est un enchaînement de péripéties. Parce qu'on peut dire que Bukowski est direct, Christine Angot est direct. Quand vous lisez les premières pages, c'est très direct. Mais c'est vraiment ce rapport à la péripétie qui, moi, on n'est plus habitué, en fait.
Je voulais juste rebondir sur ce que vous venez de dire, Alex. Ray Bradbury a avoué qu'il avait été totalement inspiré par les nouvelles qui avaient été publiées dans les pulps d'Edgar Rice Burroughs, de son cycle de Mars. Et il a déclaré lui-même: Rice Burroughs m'a envoyé sur Mars et j'y suis resté. Donc, ça conforte ce que vous disiez. Gilles Menegaldo, alors, est-ce qu'il y a un style narratif, une particularité littéraire, vous, Paul?
Je ne pense pas qu'il y ait une particularité, non, parce qu'on vient de parler justement de diversité totale. Il y a une différence énorme entre le style de Lovecraft, par exemple, et celui de Howard, celui de Clark Ashton Smith, c'est encore autre chose. Donc, il y a une complexité, comment dirais-je, stylistique. Sur le plan narratif, par contre, je pense qu'on pourrait donner l'exemple d'une écriture beaucoup plus sèche, justement, qui n'a plus grand-chose à voir avec la science-fiction, mais Dashiell Hammett, par exemple, le style de Dashiell Hammett, le style de Chandler, c'est un style très économique, un peu à la Hemingway. Hein,
parce que Dashiell Hammett et Raymond Chandler ont été publiés dans des pubs aussi.
Bien sûr, ils ont été publiés dans Black Mask en 1923-24. Et donc là, on a une écriture justement très moderne et très sèche. Donc il y a vraiment un mélange des écritures complètement conventionnelles, bourrées de stéréotypes, hein, lexicaux, etc. Mais aussi au niveau des personnages, évidemment, parce qu'on n'a pas parlé des personnages finalement. C'est-à-dire le fait quand même que ces personnages, c'est quand même des personnages très stéréotypés, des héros qui ont à la fois, parfois d'ailleurs, qui allient puissance intellectuelle et puissance physique, en quelque sorte, hein, comme Doc Savage, pour donner cet exemple-là. Ou des héros de type Conan, effectivement. On a cette quantité complètement stéréotypée des personnages masculins, avec cette force donc, qui permet l'identification, évidemment, du lecteur masculin en particulier. Et puis les personnages féminins qui sont tout aussi stéréotypés d'une autre manière, comme on le voit dans les couvertures, effectivement, aussi. C'est-à-dire qu'il y a toujours un personnage féminin qui est, disons, qui a besoin d'être protégé par le héros masculin. Donc, on a vraiment toute une série de stéréotypes, de conventions et de codage, finalement, de ce genre de choses. Donc, et ça, c'est des grands auteurs, finalement, c'est ceux qui surnagent, entre guillemets, dont on parle maintenant. C'est dans le domaine du policier, donc Hammett, Chandler et les autres. Dans le domaine Howard, on vient d'en parler, Lovecraft, etc. Et puis, il y a tous ceux qui ont disparu. Bon, moi, je vais citer quelqu'un, un auteur femme, parce qu'on a dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'auteurs femmes. Il y a Gray Laspina, par exemple, qui est un auteur qui a eu beaucoup de succès. Et qui écrivait des choses relativement intéressantes au niveau des thématiques. Alors, après, les thématiques, c'est pareil. C'est souvent, encore une fois, les vampires, les loups-garous, les momies. C'est aussi marqué par des choses comme la découverte du tombeau de Toutankhamon. Enfin, il y a toute cette dimension aussi, cet ancrage historique dans les explorations, les découvertes archéologiques, la découverte du pôle, etc. Et l'espace.
Vous me permettez de faire un pont sur le sujet que j'aimerais aborder maintenant, c'est le héros du pulp, et notamment le héros par rapport à la représentation féminine, puisque bon, on est à une époque des États-Unis, de l'histoire des États-Unis, où les femmes ne sont pas vraiment mises sur le devant de la scène, ou en tout cas pas toujours d'une manière valorisante. Vous avez eu une petite aventure par rapport à une couverture d'un des romans de Gertrude Barrows, Marie Barbier. Est-ce que vous pourriez nous en parler ?
Donc, j'avais demandé à Jean-Michel Nicolet de faire les couvertures parce que je savais qu'il allait jouer avec les codes du pulp. Et donc, pour la citadelle de la peur, il a représenté l'aventurier tenant dans ses bras une demoiselle en détresse, dénudée. Et là, j'ai la chef de vente qui m'appelle en me disant « on a un problème avec la couverture ». Voilà, on ne pouvait pas montrer deux seins alors qu'il était évident qu'on reprenait les codes du récit d'aventure parce que c'était trop dénudé, c'était pas respectueux par rapport à la représentation de la femme. Alors effectivement, c'est dommage parce que la couverture, c'est censé être une quintessence ou capter quelque chose. Là, effectivement, c'était le stéréotype de la demoiselle en détresse. Mais si vous lisez l'ouvrage, elle cumule et la demoiselle en détresse et l'héroïne farouche et rebelle. Ça n'est pas un problème sur 200 pages de prendre un peu tous les rôles. Donc, les couvertures, c'est à un instant T. Et cette couverture, voilà, était trop dévalorisante pour la femme, a priori, mais je ne l'ai pas changé. Voilà.
Et vous n'êtes pas gêné par rapport à cette couverture, vous la trouvez appropriée simplement pour le récit ? donc il n'y a pas de souci à ce moment-là. Comment est-ce que vous voyez, vous, la représentation des femmes? Nelly, par exemple. Je vous prends toujours au dépourvu, mais...
Toujours, je génère toujours surprise. Après, il faut dire que la représentation des femmes, ça a été pendant très, très longtemps problématique, parce qu'effectivement, c'était soit la demoiselle en détresse, qu'il fallait sauver à tout prix, et qui n'avait pas un très grand rôle, finalement, à part être l'objet d'une quête, en quelque sorte, soit la femme fatale, traîtresse, venimeuse, qui, si elle avait donc des atouts et du répondant, ben, ce n'était pas forcément pour la bonne cause. Donc, c'était toujours un peu dual, quoi, le rôle de la femme dans les pulps. Et ensuite, plus tard, encore une fois, j'insiste, dans le cinéma en général, toujours filmé d'une autre façon que les héros masculins, par exemple. On mettait toujours un filtre pour les mettre en valeur, avec des gros plans et tout. Et elle n'avait pas forcément le rôle le plus intéressant. Elle restait la compagne du héros, l'intérêt amoureux. Enfin, donc, c'est une vieille tradition.
Oui, sans doute le reflet aussi du cinéma d'époque qui a déjà choisi le rôle que devait remplir la femme au niveau des arts. Alex, comment vous voyez ça, la représentation de la femme dans les pulps?
Les couvertures, de toute façon, sont très parlantes à ce niveau-là. Mais il y a quand même des auteurs qui font des efforts. Je parlais de Gérald de Joyerie de Catherine Moore, où là, le personnage est quasiment une furie. C'est une nana très énervée qui va se tailler un chemin de façon très howardienne, d'ailleurs. Et Howard va créer, d'ailleurs, à peu près vers la même époque, alors, pas un de ses personnages les plus connus, mais Agnès de Chastillon, qui va être un peu sur le même modèle, ou dans La Reine de la Côte Noire, qui est une aventure de Conan, comment s'appelle Belit, ouais, qui est le grand amour de la vie de Conan, et qui est surtout la reine des pirates, et qui du coup est un personnage qu'il ne faut pas aller chatouiller dans le mauvais sens. Donc Howard va faire des efforts de ce côté-là. Alors, il y a, le truc, c'est que Howard est tout à fait capable de se plier aux demandes de l'écriture commerciale, et dans La Vallée des Femmes Perdues ou dans d'autres textes, on a des représentations de la femme qui sont très problématiques, qui sont dans l'attendu de Weird Tales, avec la demoiselle en détresse, la demoiselle dénudée qui permet, et là Howard était roublard, il savait qu'il met une demoiselle dénudée dans la nouvelle, et ben il va avoir les honneurs de la couverture, la nouvelle histoire de Conan, avec une couverture de Margaret Brundage, avec des femmes dénudées. Ces fameuses couvertures que Lovecraft n'aimait pas du tout.
Marie.
Juste, en fait, ce que j'ai trouvé intéressant dans Steven, c'est que sa façon d'être féministe, c'est de ne pas insister sur la romance. C'est-à-dire qu'à la fois, elle fait des demoiselles en détresse qui peuvent également devenir, enfin, combattre des molosses, des géants blancs, des dieux aztèques, etc., si on les chapeaute trop, donc elle cumule les deux rôles. Mais surtout, la romance reste assez cantonnée. On met ce qu'il faut, il y a un dosage, mais ce n'est absolument pas l'enjeu, en fait. Et c'est d'accord, là où, à mon sens, elle est.
Absolument, merci. Gilles Ménégaldo, la représentation de la femme, brièvement.
Je crois que, encore une fois, beaucoup de choses ont été dites. Il y a effectivement les deux stéréotypes de la femme dangereuse, la femme venimeuse, la femme manipulatrice, et puis la femme qui a besoin d'être protégée par le héros, et qui est l'objet de convoitises des monstres, effectivement, ou des savants fous, ou des histoires de séquestration, etc. Peut-être, moi, je dirais simplement, pour revenir sur la notion de femme fatale, donc on trouve évidemment pas simplement dans les romans noirs, ce qu'on appelle les hard-boiled novels, où justement le héros est un héros à la fois puissant mais fragile, donc c'est une espèce de fragilité du héros aussi qui est un aspect intéressant. Mais ces femmes ont beau être fatales et venimeuses, etc., ce sont quand même celles qui marquent l'imaginaire du lecteur et du spectateur, parce que elles sont aussi présentes sur les couvertures. Donc je pense qu'il y a une espèce d'ambivalence de la représentation de la femme. Elle est stéréotypée, mais en même temps, c'est elle qui fascine peut-être le plus aussi, ou en tout cas beaucoup, le lecteur et le spectateur. Et je pense que là aussi, il faudrait faire un rapport avec le cinéma, puisque ces pulps, par exemple, ces pulps policiers noirs, ont été adaptés très très tôt au cinéma, hein, je veux dire, dès la fin des années 30.
Le Faucon Maltais relevé de...
Le Faucon Maltais, c'est une... Oui, le Faucon Maltais, bah oui, ça relève du pulp dans la mesure où c'est une histoire de quête. C'est une histoire où il y a un personnage d'enquêteur, et ça c'est extrêmement fréquent, on parlait de structure narrative tout à l'heure, que ce soit des récits de science-fiction, de fantastique, etc., il y a toujours cette dimension d'investigation, y compris chez Lovecraft, on l'appelle de Cthulhu, il y a toujours un enquêteur qui peut être un philosophe, qui peut être un universitaire, qui peut être un spécialiste de l'anxiolytique, etc. Donc un intellectuel, entre guillemets, mais aussi parfois un homme commun, entre guillemets, plutôt un dur à cuire, justement, qui enquête. Mais cette idée d'enquête et de découverte progressive par palier, avec éventuellement des cliffhangers, donc on sait des romans épisodes, ou avec parfois des chutes aussi, quand même. Donc chez Lovecraft, c'est différemment. Ce n'est pas quelqu'un qui fait des récits à chute, c'est quelqu'un qui prépare soigneusement, par une gradation, un certain nombre d'éléments, et ça aboutit à quelque chose qui est véritablement inévitable, l'idée d'inévitabilité de la fin, qui peut-être distingue Lovecraft des gens qui font des textes à chute.
Je vais devoir vous interrompre parce qu'il faut qu'on progresse encore dans notre table ronde. Là, je voudrais qu'on évoque aussi très rapidement un aspect que vous avez, dont vous venez de parler à l'instant, c'est ces fameuses couvertures, les illustrations, les images qu'on a en couverture. Marie Barbier, quand vous avez confié à Nicolet le soin de faire une couverture pour un roman de Barros Bennett, le but, c'était de reproduire un petit peu l'esprit de l'époque.
C'était de reproduire les codes, en fait, et de s'en amuser, surtout.
Oui. Alors, un petit détail, ce matin, en arrivant, il y a quelqu'un qui me disait, on regardait les couvertures de Pulp qui sont exposées actuellement dans le couloir, qui me disait, wow, ces couleurs flashantes, ça accroche, c'était vraiment... J'ai découvert hier qu'en fait, il y avait une bonne raison pour laquelle les illustrations de pulp, de couverture pulp, étaient aussi colorées, simplement parce que le papier qui était employé pour les couvertures, même s'il était de meilleure qualité généralement que le papier intérieur, absorbait les encres de couleur et rendait les couleurs ternes. Donc, il fallait compenser en rendant ça plus vif avec d'autres méthodes. Oui, Alex.
Ce qu'on retrouve aussi dans les comics, pourquoi le slip de Superman est-il rouge ? Parce que c'est le seul moyen de le différencier de la couleur de sa peau. Le papier des comics étant aussi dégueulasse, celui des pulps au départ, on imprime avec des couleurs primaires très flashy, de manière à ce que ce soit lisible, même si le papier mange la couleur. Et à côté de ça, bon, c'est parfois des gens qui travaillent à la gouache, des gouaches assez rapides. Bon, là aussi, on est sur des couleurs très saturées, quoi qu'il en soit. On n'est pas dans les gens qui travaillent à l'huile à la même époque pour de l'édition plus prestigieuse comme N.C. Wyatt ou des gens comme ça qui vont avoir des couleurs beaucoup plus subtiles.
Qu'est-ce que vous pensez à part ça de ce type d'illustration aujourd'hui ? Comment vous le percevez, vous, qui êtes tous plus ou moins liés au milieu littéraire ? Comment est-ce que vous apercevez ? Nelly, je me retourne vers vous. Est-ce que vous êtes parfois attiré par ces couvertures pessimistes des années
30 ? J'ai trouvé magnifique, vraiment. C'est pour ça que le pulp, finalement, est resté dans l'imaginaire collectif plus que les romans feuilletons français. C'est par rapport à la qualité et le côté flashy et incroyable des couvertures. Enfin, il y avait des artistes fabuleux qui arrivaient à retranscrire des univers. Et forcément, oui, ça attirait l'œil. Et oui, il y a ce côté rétro, comme pour les pin-up de Varga, par exemple, qui sont devenus un peu intemporels, qui sont la marque d'une époque, mais en même temps qui restent toujours agréables à l'œil, intrigants, esthétiquement superbes. Enfin, donc oui, c'est en ça que se démarque le pulp par rapport aux autres littératures qui s'en rapprochaient, comme en France, où ce n'était pas les mêmes genres de couverture.
Non, pas du tout. Oui. Non. Et c'était vraiment une esthétique pulp, je crois, oui, que vous avez mis le doigt sur un truc. Oui. Vous le pensez aussi, Alex ?
Oui, ben, c'est un côté. Mais on est toujours dans le côté, c'est aussi un graphisme très direct. Et donc, c'est des couvertures qui sont appropriées au contenu aussi. Lovecraft avait beau dire, oui, bon, le truc, les couvertures de Manhattan Bondage, telles que soient leur qualité par ailleurs, ne correspondent pas au contenu. Ben si, en fait, c'est Lovecraft qui est en décalage par rapport au contenu. Donc, ces couvertures de polar avec des rousses sculpturales attrapées par le méchant, etc., c'est extrêmement direct, ça fonctionne très très bien. Ou les couvertures de science-fiction avec des vaisseaux incroyables, des extraterrestres tout aussi insolites et grandioses, ben voilà, ça marche très très bien. Et là, en se remettant dans le contexte des années 30, où la réalité c'était plutôt Steinbeck, ça fait voyager. C'est ces couvertures-là, elles ouvrent tout de suite énormément de fenêtres vers un univers beaucoup plus vaste.
Jimmy Negaldo, qui étaient ces artistes du pulp, ces gens qui ont créé cette imagerie ?
On en a parlé. On vient de parler de N.C. Wyeth, qui a illustré L'île au trésor, qui est un des grands illustrateurs, effectivement, qui a aussi fait des images de western, enfin des représentations westerniennes, des images de bagarres dans des saloons, etc., et qui a un style plutôt réaliste. Il y a Margaret Brundage, dont on a beaucoup parlé, qui pendant 3 ans, on va faire, je sais pas, une trentaine de couvertures, même peut-être plus, avec effectivement un peu toujours les mêmes ingrédients, et notamment donc ce caractère de la femme victime d'un monstre, etc. Ce qui est assez frappant aussi, c'est parfois la composition très, très intéressante. Enfin, il y a la représentation, évidemment, des créatures surnaturelles ou science-fictionnelles qui viennent de l'hyperespace, etc. cette idée que l'homme peut être, alors on trouve ça dans des textes de Lovecraft aussi et d'autres, l'idée que l'homme peut être aussi un objet d'expérimentation pour les extraterrestres, pour les savants fous. Bon, il y a ce côté de, aussi là. Donc, la mise en représentation du corps, mais pas simplement du corps érotisé de la femme, mais aussi du corps violenté, du corps martyrisé. Il y a même des couvertures qui ont été tellement loin dans le sadomasochisme que ça aboutit finalement à l'interdiction de ce type de couverture et à l'interdiction des femmes dénudées aussi à terme. Et donc, par exemple, Blondage a été obligé de faire autre chose, par exemple. Et puis, il y a des couvertures, celles de Senf, par exemple, je crois, qui sont plus historicisées, qui sont dans un contexte historique du 18e, etc., plus nostalgique, entre guillemets, ou peut-être plus suranné. Il y a Hannes Bock aussi qui vient un peu plus tard, je crois. Enfin,
il y a eu beaucoup d'illustrations.
Virginie Finlay qui était très importante. Virginie Finlay, très important. Hannes Bock et Virginie Finlay qui font des choses beaucoup plus subtiles dans la représentation. Et parfois, comme je disais, il y a des questions de cadrage très complexes. C'est-à-dire qu'on a plusieurs niveaux dans l'image. On a un premier plan, un arrière-plan, etc. Et on a cette présence, comme je disais souvent aussi, d'instruments de la technologie et de la technologie audiovisuelle dans les couvertures. Donc, il y a un mélange d'archaïsme et de modernité là encore.
Là, nous venons d'évoquer l'âge d'or du pulp, mais nous avons déjà parlé de son déclin. La Seconde Guerre mondiale arrive. Un genre va se distinguer au sein du pulp, c'est la science-fiction, mais nous n'allons pas nous éterniser sur ce genre-là, parce qu'on est obligé de faire avancer la table ronde, et le modérateur de la table ronde a pris le retard. Donc, qu'est-ce qui a provoqué le déclin à partir des années 40 jusqu'à la fin des années 50 où le peuple va quasiment disparaître? Qu'est-ce qui a provoqué le déclin? Il y a peut-être déjà des arguments graphiques parce qu'il y a un autre produit littéraire qui apparaît sur le marché, qui prend de plus en plus d'importance. Alex, c'est vers vous que je
Alors, me tourne. C'est les comic books vont en fait complètement vampiriser à la fois les structures. Vous voyez tous les pulps qu'on a en vitrine. Vous prenez un comic book de la même époque, des années 30, un Morphin Comics, un Action Comics, etc. C'est moins épais, mais c'est le même format. Et en fait, c'est les mêmes imprimeurs. Vous connaissez tous Marvel. Marvel Tales, première publication de Timely Comics dans les années 30, c'est un pulp. C'est assez rapidement que ça va être retitré et redémarré sous le titre Marvel Comics, au moment où les comics qui sont plus directs et qui permettent de toucher un lectorat plus jeune aussi. À partir, en fait, ce qui se passe, c'est en 1933, le média graphique dominant à l'époque, c'est le comic strip. Donc, c'est la bande quotidienne dans les journaux qui va déjà utiliser souvent les mêmes codes que le pulp. On a Mandrake le magicien, on a Flash Gordon, Terry et les pirates de Milton Caniff, avec la Dragon Lady, par exemple, qui est une pure femme fatale de pulp. C'est tout ce genre de choses vont taper dans la même boîte à outils. À partir du début des années 30, des éditeurs vont réimprimer, vont créer des magazines qui permettent, alors là, ça coûte vraiment pas cher au départ, de réimprimer les comic strips pour les gens qui ont loupé l'épisode du jeudi 17 octobre 1928 de Popeye, par exemple. Et on va avoir un magazine avec... quelques semaines, 2-3 semaines de Popeye, 2-3 semaines de Terry les pirates, etc. Le problème, assez rapidement, c'est que les syndicats qui détiennent les droits des comic strips, ils ne sont pas les mêmes éditeurs que c'est des éditeurs de pulp qui vont imprimer des comics, c'est le même format, c'est les mêmes machines peuvent servir à ça, et qui vont conquérir un nouveau marché. Les syndicats qui détiennent les droits des comic strips vont faire monter les enchères. Pour avoir Flash Gordon, pour avoir Popeye, etc., ça va coûter plus cher. À un moment donné, ça devient plus facile d'embaucher le petit cousin qui dessine ou le gars du quartier qui a un bon coup de crayon pour faire la même chose. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir Mandrake le magicien, on va avoir Zatara le magicien chez ce qui deviendra DC Comics. Plutôt que d'avoir Slam Bradley, grande création de Siegel et Shuster, les auteurs de Superman, avant Superman, Slam Bradley, qui est un pur personnage de Dashiell Hammett et de le détective à chapeau mou, imperméable, et qui pense un peu avec ses poings. On va avoir toutes ces choses-là. Et là, pour le coup, le comics est plus direct. Et à un moment, il va y avoir ce glissement, un rajeunissement un peu du lectorat, et une bascule des mêmes imprimeurs, les mêmes imprimeurs et éditeurs vont basculer de plus en plus vers le comics. Et le déclin des pulps correspond à ce qu'on va appeler l'âge d'or des comics, parce que quand National Publications lance Action Comics, on est à 800 000 exemplaires. Argosy était à 500 000 exemplaires. Bah, Action Comics, en quelques mois de temps, donc avec Superman, avec d'autres histoires complètement inspirées du pulp, va toucher les 800 000 exemplaires. Et 2 ans plus tard, Wiz Comics, avec le personnage de Shazam, de Captain Marvel, va taper les 1,2 million. Ce qui va d'ailleurs générer des procès et des toutes sortes d'histoires.
On a les comics qui sont des concurrents des pulps. Il y a la radio aussi qui concurrence, mais il y a aussi le cinéma, un médium auquel vous intéressez particulièrement, Menegaldo. Le cinéma avec les séries et puis des films directement inspirés des pulps.
Oui, alors il y a déjà dans les années 30, hein, donc les Tarzans, il y a la série des Tarzans, par exemple, qui reprend l'histoire de Edgar Allan Poe. Les jungle films, c'est-à-dire les films de jungle, qu'on appelle aussi, donc toute cette dimension exotique, fantastique, avec des pratiques, des rites africains, par exemple, tout ce qui est un peu, qui sort de l'ordinaire, tout ce qui est étrange, hein, pour ce public-là. Et puis donc plus savoir aussi que les grands, enfin, Conan par exemple a été adapté au cinéma plusieurs fois, Doc Savage aussi. Alors les films ne sont pas forcément géniaux, et peut-être l'influence, effectivement, on en parlait tout à l'heure, peut-être on peut développer un petit peu la saga de Indiana Jones, c'est clairement inspiré des pulps. C'est un aventurier qui est à la fois, enfin c'est quelqu'un qui est à la fois un intellectuel, un archéologue.
Je voulais en parler avec Denis Chabot.
Oui, bien sûr.
Là, c'est juste au moment de la transition entre le pulp et d'autres médias.
Oui, d'autres médias, tout à fait.
Est-ce que le cinéma, le serial, c'était en fait l'équivalent des séries qu'on a aujourd'hui en streaming et qui étaient proposées dans les cinémas? Oui. Il y a eu Buck Rogers.
Buck Rogers, Zorro, 20e siècle, Zorro. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Ensuite, il y aura Batman, finalement. Enfin, ça, c'est les céréales autour des héros de comics. Mais effectivement, oui, le céréal, c'est l'équivalent de... Bon, il y a les deux choses. Il y a à la fois les adaptations, effectivement, des héros de pulps, enfin, des personnages de pulps. Et évidemment, il y a tous les films noirs des années 40 et qui reprennent aussi des personnages.
Les codes de pulp.
Des codes de pulp.
Alors, avec l'arrivée des années 50, on va avoir une explosion de la science-fiction qui va un peu vampiriser le phénomène pulp et qui va se trouver d'autres biais de publication sous forme de romans et non plus de courts romans ou de nouvelles.
Oui. Juste un mot pour dire, il y a aussi évidemment toute une série de films de science-fiction dans les années 50, hein, autour des extraterrestres, autour du péril atomique, autour des mutations, par exemple, quelque chose comme les VEM, hein, quand les monstres attaquent la ville, c'est-à-dire une histoire de fourmis géantes, suite à des radiations, etc. Donc il y a énormément de choses. Bon, tous les extraterrestres, les adaptations, justement, on avait parlé de Gernsback, pour lui, l'un de ses héros, c'était H.G. Wells. On va adapter la guerre des mondes au cinéma dès les années 50. Bon, ça, il y a plusieurs versions. Mais en fait, ça commence beaucoup plus tôt. Je veux dire, le cinéma, c'est aussi Jules Verne dans les années 20. Il y a 3 adaptations en cinéma muet de Van Gogh sous les mers, par exemple.
Mais après le début des années 60, on a l'impression que le pulp est rejeté en arrière comme une chose du passé. Il est sous-considéré, déconsidéré. On l'ignore, on considère qu'il n'a plus son mot à dire et on va le redécouvrir progressivement. Je me tourne vers vous, Nelly, parce que vous incarnez une nouvelle génération, vous êtes autrice vous-même et vous aviez cité Indiana Jones comme une initiation au pulp. Comment est-ce que vous avez perçu ça? Qu'est-ce que vous voyez de pulp dans Indiana Jones?
Ben déjà, comme a dit Gilles, le héros qui est à la fois un intellectuel et un homme d'action, c'est le héros typique du pulp. Hein. Et les aventures à rebondissements, ça n'arrête jamais. Quoi. Les scènes d'exposition, on sait tout de suite, on va droit au but, on sait qui fait quoi. Déjà, l'exposition du personnage en lui-même, il sort de l'ombre avec son fouet et empêche un type de lui tirer dans le dos. Ben voilà, le personnage est posé tout de suite, mais il reste encore plein de surprises. Ça, c'est typiquement pulp, ça s'arrête jamais et c'est toujours premier degré, même s'il y a une dose d'humour, mais j'ai eu quand même des beaux éclats de rire avec les aventures de l'Arche perdue. Et c'est le film, un des films les plus pulp que je connaisse. Mmh. Et très ironiquement, d'ailleurs, j'ai l'impression que le cinéma d'action, d'aventure, western, tout, doit énormément au pulp. Mais par contre, les héros de l'époque, les héros du pulp, sont très mal récompensés. Mis à part le Conan de Milius, qui après a connu des adaptations pas très glorieuses, les autres héros, comme The Shadow, qui a connu une adaptation par Russell Mulcahy, le réalisateur de Highlander, qui est un de ses seuls titres de gloire, malheureusement, c'est complètement planté. Le John Carter des studios Disney, c'est complètement planté aussi, alors que bon, c'était pourtant l'esprit pulp à fond, j'ai vu le film, mauvais. Il n'est pas parfait, mais il n'est pas mauvais, et ça respecte parfaitement l'esprit, mais complètement planté. Alors que les héros Indiana Jones ou les westerns avec Clint Eastwood ou autres, les westerns spaghetti, qui ont un petit côté pulp aussi, je trouve, ont un succès fou.
J'ai vu un spécialiste américain du pulp qui affirmait dans une interview que sans les pulps, il n'y aurait pas eu Star Trek ni Star Wars, parce que si on fait attention, en dessous de l'habillage de science-fiction, et même l'habillage de science-fiction appartient aussi au pulp, il y a avant tout une façon de raconter une histoire. Est-ce que vous êtes d'accord, a priori ?
Sur Star Trek, vous lisez La faune de l'espace de Van Vogt, qui doit dater de 48 ou 50, je ne sais plus, c'est déjà Star Trek en fait.
Et La faune de l'espace avait été publié en pulp, absolument. Ça ressemble beaucoup à ça. Et quand on regarde, c'était Bradbury qui avait fait un parallèle avec Luke Skywalker en disant que Buck Rogers et Skywalker sont de la même famille. Ce sont des gens qui... Oui.
Et puis le propre de Star Trek, c'est la découverte. On disait justement que le pulp, c'était l'exploration, la découverte, l'aventure. C'était l'abolissement des frontières. Donc c'était l'abolissement des frontières de l'aventure. Et ils sont en découverte permanente. Donc oui, c'est parfaitement pulp, avec une philosophie aussi très humaniste. Et Star Wars, pareil, c'est un peu un western de l'espace, finalement, avec un peu de tragédie shakespearienne.
Alors maintenant, nous allons essayer d'aborder la phase finale de cette table ronde, parce qu'il faut qu'on achève. Moi, j'aimerais bien parler encore quelques heures. Mais à votre avis, aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de la culture pulp? Qu'est-ce qui relève de la culture pulp? Est-ce qu'elle est encore présente? Est-ce qu'elle influence quelque chose? On va faire dans l'ordre. Je vais vous prendre... D'abord, Alex Nikolaevitch.
Pour moi, et partout, dans les comics, enfin dans les comics, dans le cinéma, alors à des degrés divers. Après, c'est des dosages, parce que bien évidemment, on est dans une époque qui a un peu plus le goût du postmoderne, d'interroger les icônes avec ironie, etc. Mais donc, ce qui fait que, par exemple, les films Marvel, qui pourraient être très premier degré, vont toujours se moquer de leur sujet, mais... Pour que ça existe, il faut quand même qu'il y ait le pulp et qu'effectivement, qu'on continue à voir il y a encore eu un Indiana Jones cette année. C'est bien que ça continue à nourrir les choses. Et quand Quentin Tarantino fait Pulp Fiction, c'est un hommage direct à ces couvertures-là, à ce genre de personnage-là. Alors, lui aussi, il fait sur un mode du collage postmoderne avec beaucoup d'ironie, mais on est quand même dans des rebondissements dans tous les sens. Donc, ça continue de toute façon d'exister sous plein de formes et même en littérature. Oui, j'aime bien là mon dernier roman. Je m'étais dit, je vais faire là pour le coup de la grande aventure. Ça me sortira un peu des trucs très complexes où je fais des expériences narratives et tout. Là, j'avais besoin de faire de l'énorme grande aventure avec des explorateurs qui sont poursuivis par un sorcier aztèque dans une forêt. Genre. Mais on a besoin aussi de ça. Donc ça ressurgit toujours, ça fait partie de notre ADN, comme le western ressurgit toujours, et pour cause, c'est dans la thèse d'à côté, ou le peplum, parce que le peplum aussi a beaucoup inspiré l'esthétique pulp, pourquoi ces choses-là reviennent toujours à intervalles réguliers? Parce que de toute façon, on a besoin de revenir à des sources comme ça, à des sources très primales.
Nelly Shadow, vous qui êtes autrice, est-ce que vous vous sentez touchée, inspirée par le pulp aujourd'hui?
C'est mon fond de commerce, en quelque sorte, parce que j'écris surtout du pulp.
Énervée ou pas?
Alors, un des premiers était énervé, effectivement. Bon, malheureusement, tous mes bouquins ne sont pas là, mais j'avais commencé avec des fascicules, qui est le type de roman très populaire en France au début du XXe siècle, et dont l'éditeur s'était beaucoup inspiré de Gustave Lerouge, donc Le serpent se mord la queue. Et il m'avait demandé de faire une série de courts romans à la Angélique Marquise des Anges. Sauf que bon, Angélique Marquise des Anges, ça va bien de se dépotrailler en criant Geoffrey. Je voulais une héroïne qui se renouvelle, qui ne se laisse pas faire. On l'embrasse de force, elle t'arrache la bouche. Enfin bon, voilà, donc c'était le pulp énervé. Il se passait toujours quelque chose. Et comme disait mon éditeur, en fait, t'écris, en même temps, tu pètes ta chaise à coups de pied pour te mettre dans l'ambiance.
Et est-ce que vous avez des collègues, d'autres autrices, des amis qui sont dans la même démarche?
Oui, en fait, avec les moutons électriques, ils avaient créé une petite maison d'édition, une petite structure qui s'appelle Multinus, et qui avait fait un financement pour une série de romans qui s'appelle La Ligue des écrivaines extraordinaires. Et l'idée, c'était d'employer des jeunes autrices qui mettrait en scène des écrivaines très célèbres comme Mary Shelley, les Sœurs Brontë, Jane Austen, et les confronterait à des créatures surnaturelles comme les loups-garous, des momies, la créature de Frankenstein elle-même, quoi. L'idée, c'était de faire vraiment des romans pulp, mais très féminins, où la demoiselle en détresse n'existerait plus, où c'est donc la femme de lettres qui prend aussi l'épée et qui va maraver du monstre.
Merci Nelly. Marie, vous, est-ce que vous voyez du pulp encore autour de vous aujourd'hui?
Alors moi, là où je trouve que c'est distillé, mais c'est partout, hein, je rejoins Alex là-dessus, et juste une anecdote, mais pour Frances Stevens, la Fiole au Cerbère, elle avait projeté en fait une Pennsylvanie en 2118, qui était devenue une espèce de démocratie fasciste, dévoyée, voilà. Et je me suis dit, mais ça me rappelle quelque chose dans la description qu'elle faisait de cette Pennsylvanie. Et où est-ce que j'ai déjà eu cette sensation? Et en fait, je l'ai eu dans Retour vers le futur, le 2, quand il revient, il y a l'hôtel de ville, il y a le drugstore. Mais il y a quelque chose qui est bizarre. Et en fait, c'est la pègre locale qui tient désormais cette ville qui est devenue cauchemardesque. Et bien, c'est exactement le topic qu'elle décrit en 1919. Voilà, donc ça, c'est un exemple de la distillation.
Merci Marie Barbier. Gilles Ménegaldo, le mot de la fin.
Je rejoins tout ce qui a été dit. Hein. Effectivement, je crois que le pulp est partout, comme Lovecraft est partout en ce moment, par exemple. Et je vais juste donner un exemple, parce qu'il y en a beaucoup d'autres. On vient de parler d'Indiana Jones, enfin, le dernier Indiana Jones. Le renouvellement du western, à la fois au cinéma, à Tarantino, mais il n'y a pas que lui. Il y en a plein, y compris les Français, d'ailleurs. Mais aussi dans les séries. Les séries télévisées reprennent tous les codes des pulps. Il y a des quantités de séries policières, de séries d'aventures, de séries horrifiques, etc. Je vais juste donner un exemple parce qu'on est dans un festival Lovecraft. C'est Lovecraft Country, justement. Jordan Peele, qui est le showrunner, hein, c'est-à-dire le scénariste. Alors évidemment, il y a ce côté distancié par rapport à l'époque, c'est-à-dire que les héros sont des héros américain. Lovecraft se sert un petit peu de repoussoir en quelque sorte dans le film. Ça se passe dans les années 50, mais justement dans le moment des pulps aussi. Les héros noirs lisent des pulps, lisent des romans de 4 sous, lisent des textes de Lovecraft. Mais surtout, la série, sur 10 épisodes, je crois, utilise pratiquement tous les codes des pulps des différents genres, c'est-à-dire des histoires à l'Indiana Jones, des histoires qui se passent, une histoire de monstres Lovecraftiens. Etc. Donc il y a vraiment un mélange des histoires de spectre aussi, parce qu'il ne faut pas oublier le motif du spectre. On n'en a pas parlé, on n'a pas prononcé une seule fois le mot spectre, alors que c'est quand même un des thèmes très importants. On pourrait parler bien sûr de toutes les j'allais dire ressuscés, mais c'est un mauvais jeu de mots, de vampiriques aussi. Et donc là aussi, dans Lovecraft Country, il y a cette référence vampirique. Les morts-vivants, les zombies, bon, etc. Donc, comme on dit, Lovecraft Country rassemble un petit peu tous les éléments du pulp, effectivement, des codes pulp des années 50, dans un contexte années 50, mais avec une volonté de revisitation, justement, de l'idéologie des pulps.
Merci beaucoup, Gilles Ménegaldo. Et ce sera donc sur cette déclaration que nous conclurons cette table ronde. Maintenant, nous nous tournons vers vous. Si vous avez des questions, des observations, des remarques, des suggestions, des interrogations et des lancements de thèmes à faire, c'est maintenant qu'il faut le faire. Oui, ici. On avait abordé ça un petit peu au début. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu l'équivalent, vous, Nelly?
Oui, il y avait l'équivalent. Il y avait les romans feuilletons qui ont démarré dans les années 1830, dans les journaux populaires. Enfin, c'était souvent d'abord des bandes de texte en bas. Et puis, je crois qu'un des premiers romans feuilletons considérés comme tel, en tout cas, c'est un roman de Balzac, La vieille fille, de 1836, je crois. Enfin bon, donc on comprend pourquoi Balzac ou Victor Hugo ou Dumas pissaient de la copie, c'est parce qu'ils étaient payés à la page. Donc, plus
à la ligne. Et Dumas, ça se voit dans Bragelonne, par exemple.
Toutes les descriptions à rallonge et tout. Donc on a commencé le pulp avec des auteurs qui finalement sont rentrés dans la postérité et sont étudiés en classe. Mais après, au fur et à mesure, ça rejoignait un petit peu plus ce pulp tel qu'on le concevait, quoi. Il y avait Les Mystères de Paris de Gene Sue, qui est un véritable roman d'aventure, un peu de la fantaisie urbaine en quelque sorte, avec des rebondissements à foison, de la traîtrise, des meurtres et des mystères, comme son titre l'indique. Et au XXe siècle, au début du XXe siècle, on arrive à des auteurs comme Gustave Le Rouge avec Prisonnier de la planète Mars et La guerre des vampires, qui a fait ensuite Le mystérieux docteur Cornelius, qui est une histoire de savant fou. Tout cela dans les années 1900-1910. Il y a eu Les Fantômas, qui est quand même du pulp pur et simple, quoi, avec son maître, son génie du mal. Il y avait une série de super-héros qui s'appelle Le Nyctalope de Jean Delahire, qui a été repris ensuite par Serge Le Mans dans la bande dessinée La Brigade Chimérique, qui est donc une espèce de digue des gentlemen extraordinaires, mais à la française finalement. Donc oui, il y avait vraiment un esprit assez pulp, assez aventure, science-fiction, fantastique débridé. Mais au fur et à mesure, j'ai l'impression en tout cas que le public de la littérature française est pas mal, devenu beaucoup plus snob. Avant la Deuxième Guerre, en tout cas, ça restait très populaire. Enfin, on adorait l'horreur en France. Il y avait le théâtre du Grand Guignol. Il y avait les films de l'époque, les Musidora. Enfin, bon, on était quand même pas mal au coude à coude avec les Américains et les Anglo-Saxons.
Les grandes jus aussi.
Oui, voilà, exactement. Mais après la Deuxième Guerre, j'ai l'impression que ça s'est beaucoup calmé.
Oui. J'avais le sentiment, enfin, le souvenir que j'ai gardé de ma jeunesse, j'avais le sentiment qu'il y avait toujours une distinction entre la littérature sérieuse et la littérature d'évasion qui était considérée comme un sous-produit négligeable. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti ça aussi.
C'est complètement, et on n'étudie plus du tout la littérature de divertissement à l'école en tout cas. Maintenant, il faut que ce soit sérieux, c'est sérieux la littérature, c'est de l'art. Je crois que c'est ça, hein. On considère ça comme un des beaux-arts et tout ce qui est en tout cas littérature pulp, c'est... pour la plèbe.
Merci Nelly. Notre... Oui, ici, je vous oublie pas, mais ici au milieu.
Peut-être on va vous donner le micro pour la retransmission plus efficace. Merci.
Merci. Je disais que j'ai l'impression que en ce moment, on fait la confusion entre la littérature populaire et ce qu'est véritablement le pulp magazine américain. La littérature populaire, effectivement, est cette littérature qui est apparue dans les rez-de-chaussée de journaux au milieu du 19e siècle et qui a débouché sur l'édition Bon Marché, le livre populaire de Fayard en 1910, ainsi de suite. Cette littérature destinée aux masses. Mais, effectivement, on retrouve ces principes dans les pulps américains, mais n'oublions pas que la littérature populaire, de la même façon, existait aux États-Unis au 19e siècle, au milieu du 19e siècle, avec la littérature publiée dans les journaux dès 1850, puis ensuite la reprise de cette littérature en fascicule dans les dime novels, et où les mêmes thèmes ont été abordés. On a de la science-fiction dans Frank Reed's Library, au tournant du siècle, ainsi de suite. Mais quand on parle de pulp américain, je pense qu'on doit intégrer le phénomène industriel, c'est-à-dire la production de masse avec un papier de très mauvaise qualité, des couvertures édifiantes, ainsi de suite, tout ce qu'on a vu dans les vitrines.
C'était Francis Saint-Martin qui nous verrait en conférence tout à l'heure.
Oui, qui est un spécialiste du pulp pour expliquer un petit peu la réponse, enfin la remarque très pointue. Monsieur.
Merci. C'est plus une réflexion qu'une question. Enfin, à la base, c'était une question, mais à force de qu'elle tourne dans ma tête, je me dis que ça pourrait être l'objet d'une future table ronde. C'est justement cette place de la femme dans la littérature pulp, pas qu'en tant qu'héroïne, enfin, personnage, pas héroïne, mais personnage, mais aussi du point de vue autrice, puisque ce que Marie Barbier a mis en exergue, c'est des autrices qui signaient de noms d'hommes pour être publiées, par choix plus ou moins guidé, on va dire, enfin, certainement très guidé, mais il y a aussi le lectorat, parce que si je ne me trompe pas, le lectorat des pulp était en grande proportion féminin, avec peut-être par choix aussi dans le courrier des lecteurs, des courriers de lectrices, et je trouverais intéressant vraiment de pouvoir développer cette place de la femme dans la littérature pulp, dans et autour de la littérature pulp.
C'est vrai qu'il y a des choses à faire parce que je pense que l'antenne d'Argosy en Grande-Bretagne a été tenue par une femme. Je pense à une Daisy Bacon qui faisait Love Story, c'était un lectorat, il y avait peut-être 2 millions de lecteurs. Enfin voilà, il y a ce qui est quand même plus important qu'Argosy.
Une autre question, là-haut. Je vais commencer en bas, si vous voulez bien, ça m'évitera de monter l'escalier tout de suite.
Je vous remercie. Vous avez parlé justement des pulps, du début des pulps, de l'histoire des pulps. Ma question, c'est plutôt qui lisait les pulps. Quelle était la démographie du lecteur de pulp dans les années 1920, 30, peut-être 40 et aussi, comment était considéré le pulp d'une manière générale par l'intelligentsia ou ou est-ce que c'était considéré comme une sous-culture, ou est-ce que c'était abordé comme quelque chose comme une culture plutôt populaire, ou est-ce que c'était vraiment considéré déjà comme de l'art comme on peut le voir aujourd'hui?
C'était quelque chose qu'on achetait à l'épicerie ou chez le marchand de journaux, et c'est l'équivalent de ce que nous on a appelé la littérature de gare. Donc c'était vraiment le genre de truc qu'on pouvait lire avant de prendre. Et puis les voyages en train à l'époque, c'était pas le TGV, donc avoir de la lecture, avoir 100 ou 200 pages de lecture était pas mal, et ça ne coûtait que 10 cents. Donc c'était vraiment, oui, c'était vraiment un lectorat plutôt populaire. C'était pas très bien considéré dans le l'intelligentsia littéraire. Il y avait des passerelles, il y a toujours des passerelles entre haute culture et culture populaire, mais c'était de toute façon pas très, très bien considéré.
Si je peux me permettre de rajouter, il y a une différence entre les pulps justement publiés sur papier, mauvais papier, etc. Et ce qu'on appelle les slick magazines, hein, les glossy magazines, sont publiés sur un papier plus de meilleure qualité et qui sont censés avoir des meilleurs auteurs, des meilleurs textes, etc. Donc il y a vraiment une hiérarchie quand même qui vous prendre en compte.
Merci, Jimmy Legado. Encore une question ?
Déjà, bonjour. Merci pour la super table ronde. J'avais une question concernant la colonne des lecteurs qui avait été... dont quelqu'un avait parlé durant la conférence. Je me demandais quel crédit on pouvait accorder à ces colonnes-là dans la mesure où, comme vous l'avez rappelé, on était dans un contexte ultra commercial. Il fallait vendre. Et voilà, je me demandais juste s'il y avait des faux témoignages qui pouvaient être publiés ou pas.
Alors, j'en ai pas vu, mais après, je ne me suis pas penché plus que ça, mais il y a beaucoup de lettres, parfois des lettres très critiques. Hein, il y a souvent des lettres très critiques qui étaient publiées, qui permettaient à l'éditeur ou aux auteurs de répondre parfois plus ou moins vertement, mais beaucoup de contacts se sont pris entre dans la bande à Lovecraft, une partie des gens, alors Lovecraft avait déjà un petit cercle de gens qui venaient du journalisme amateur, mais il va étendre le cercle de ses correspondants grâce notamment au courrier des lecteurs de Weird Tales. Donc il y a parfois des empoignades dans le courrier des lecteurs, et là c'est tout à fait authentique, avec des gens qui s'apprécient mais qui vont se plier par courrier des lecteurs interposé.
Et c'est pas comme ça qu'il rencontre Robert Bloch d'ailleurs, hein.
Robert Bloch, Robert Howard, c'était une lettre non publiée, mais Robert Howard critiquait une nouvelle de Lovecraft en disant là il y a un problème, de documentation, et plutôt que de la publier, l'éditeur l'a envoyée directement à Lovecraft, qui a répondu, et ça a été le début d'une belle amitié. Mais c'est possible, oui, que ce Bloch était un adolescent un peu nerveux, avec des idées très arrêtées sur certains trucs. Mais il pouvait être assez mordant dans son courrier.
Oui, pour ça, je vais donner l'exemple de Bloch avec Robert Howard, effectivement, qui critiquait l'un des héros les plus populaires, entre guillemets, qui était Conan. Donc, il mâchait pas ses mots en disant que c'était vraiment nul, répétitif, ennuyeux. Je pense qu'effectivement, il y avait quand même cette dimension que il me semble que les éditeurs, parfois, faisaient des remarques sur leur propre texte. Il faisait de l'autopromotion en quelque sorte aussi à l'intérieur, mais par contre, je pense qu'effectivement, il y a une certaine authenticité dans ce Avery là, et que c'est pour ça que ça a assez bien marché pendant très longtemps, et qu'au début, c'était vraiment. Ça s'est développé au fur et à mesure, Francis me démentira, mais ça s'est développé au fur et à mesure de la publication, et à un moment donné, au contraire, ça a diminué de plus en plus au point de disparaître, et je crois que dans les derniers Avery, il n'y avait que des commentaires sur les textes publiés. Quoi. Donc ça servait d'éléments critiques, de discours critiques au niveau des pages même, mais ce n'était plus vraiment le public qui intervenait. Quoi.
Merci, Gilles. Une question ? Oui.
On a vu depuis 20 ans, en fait, le Hollywood s'inspirer énormément des comics Marvel et DC pour alimenter son industrie. Est-ce qu'à l'avenir, on ne risque pas en fait, de voir Hollywood aller piocher justement dans ces personnages et dans ce vivier de personnages, surtout peut-être même que certains d'entre eux sont peut-être même maintenant libres de droit et donc pourraient alimenter un certain nombre de films. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui pourrait arriver?
Ils ont déjà tenté, en tout cas.
Je crois que John Carter,
donc, j'avais parlé de John Carter et de l'échec au box-office que ça a été, de l'adaptation
assez merdique, on va dire, du Shadow.
Je l'aime bien, mais bon, c'est pas un film réussi. C'est pas un film réussi, il n'est pas complètement raté.
La mise en scène n'est pas trop mauvaise, mais purée le scénario. Bon, après, peut-être qu'ils vont essayer de repiocher. En tout cas, bon, il y a toujours la nostalgie des années 80, et je pense en particulier à une série japonaise que beaucoup doivent connaître, le Capitaine Flamme, qui est une adaptation de Captain Future, qui est un des personnages pulp les plus populaires. Donc, ils ont repris assez fidèlement les romans de Edmond Albulton, avec les explications scientifiques. Moi, je pense que tout le monde se souvient, avec la voix off qui était très didactique. Donc, peut-être qu'il y aura cette nostalgie-là, pas vraiment tournée vers le pulp, peut-être de façon détournée, qui sait, mais bon, pour l'instant, c'est vrai qu'avec les Cops et Libres de droit, il y aura peut-être matière à, mais je pense qu'ils vont y aller prudemment avec les deux gros échecs commerciaux que j'ai cités.
Il y a quand même des héros qui mériteraient. Personnellement, j'aimerais bien revoir Doc Savage sur l'écran, mais présenté correctement, puisque dans les années 70, il y a eu une catastrophe industrielle.
Oui, ça se dans film, d'ailleurs. C'est un des films.
Et puis le doublage français était, avec Georges Aminel, était formidable.
Oui, qui est quelqu'un à
ce besoin. Bah oui, c'est Georges Aminel, bon, qui a doublé Dark Vador, mais aussi Rominet. Et là, il était plus sur le versant Rominet.
C'était terrible. Une question encore. Voilà, ici.
Alors, c'est plus une question en termes de définition. Parce que j'allais dire, il y avait les Penny Dreadful qui venaient donc d'Angleterre, qui étaient vraiment du mauvais papier, distribués dans la rue, etc., etc., mais qui abordaient plus ou moins les mêmes thèmes. Mais malgré le fait que ce soit, on va dire géographiquement parlant, pas le même endroit et que ce ne soit pas la même période, est-ce que malgré tout, on peut considérer ça comme du pulp ou est-ce que pour vous, il y a une différence fondamentale?
C'est le cousin d'Amérique, c'est des cousins, le Penny Dreadful, les contemporains des dime novels. Et il va y avoir d'ailleurs un peu un phénomène, je parlais de la reprise des cadres matériels du pulp pour donner le comics tel qu'on le connaît, le même phénomène aura lieu en Angleterre, parce que la bande dessinée en Angleterre, c'est de l'hebdomadaire avec une faible pagination, 16 pages hebdomadaires, grand format, ça c'est la bande dessinée en Angleterre, ça commence vers 1900-1905, avec des éditeurs qui publiaient précédemment des Penny Dreadfuls au même format. Donc il y a vraiment des mécaniques, c'est vraiment des parallélismes forts. Après, le Penny Dreadful, comme son nom l'indique, c'était vraiment les histoires effrayantes. Enfin, ça poussait plus vers le côté horrifique, choquant, etc. Et moins vers l'aventure, c'est moins aventurier. C'est plus le truc, la shock value était plus forte dans le Penny Dreadful.
Je crois que là, nous allons finir cette table ronde. Je voudrais commencer par vous remercier. Charmant public, vous avez eu la bonté de nous accorder un relatif silence qui nous a permis d'entendre ce qu'avaient à nous raconter nos invités. Merci à vous de ce silence attentionné. Je crois qu'on peut remercier quand même nos quatre invités qui ont été de très bon niveau. Et n'oubliez pas que vous pouvez les rencontrer pendant toute cet après-midi dans le cadre de ce campus Miskatonic. Merci à vous.